CQFD. Stéphane Gabiou.
Bonjour à toutes et à tous, c'est effectivement CQFD, votre émission de science et de santé, à mes côtés. La jeune québécoise Claude Pelgag qui chantait Les Corbeaux sur la première, il est 10h29. Nous allons évoquer à présent une sensation agréable, très commune et pourtant mal connue et mal comprise, le bâillement, Bastien Confineau.
Bah oui, un phénomène qu'on expérimente tous, à peu près tous les jours et qui se définit assez simplement. C'est une contraction musculaire du visage et du diaphragme. Et cette contraction provoque l'inhalation de beaucoup d'air. Et pour inhaler beaucoup d'air, vous allez aussi ouvrir la bouche. Donc ça, c'est relativement simple. Alors au cours des minutes qui viennent, on va essayer de comprendre ce qui déclenche le bâillement. Vous allez voir que ça va de l'ennui, alors ça évidemment c'est bien connu, au désir sexuel, ça c'est moins connu. Mmh. Et puis on s'interrogera sur la contagion du bâillement et le rôle qu'il pourrait apporter aux êtres vivants. Mais pour commencer, une question toute simple que j'ai posée à Olivier Waluzinski, médecin généraliste, grand spécialiste du bâillement. Combien de fois bâillons-nous au cours d'une vie ?
Au cours d'une vie, plus de 200 000 fois sûrement. On bâille en moyenne entre 5 et 10 fois par jour, suivant les conditions où on est, de fatigue ou pas. Mais on bâille tous les jours, tout le monde, sauf dans certaines maladies, comme la maladie de Parkinson, où dans certains cas, ça disparaît.
Et il survient à quel moment ? Il peut venir n'importe quand dans la journée. Le premier réflexe, c'est de se dire, c'est quand on est fatigué. Mais...
Alors, nous bâillons surtout le matin au réveil, associé donc aux étirements musculaires, et en fin de journée, quand on est fatigué, avant de s'endormir. Mais on peut bâiller aussi quand on a faim ou quand on a trop mangé, et dans des moments où on a une baisse de la vigilance quand on n'est pas stimulé, comme par exemple dans des transports en commun, dans une tâche monotone, quand on s'ennuie.
Ça veut dire que si on voit quelqu'un qui bâille en face de nous, il faut se vexer a priori ?
Ah, pas du tout. D'abord, le bâillement, c'est quelque chose de physiologique. Et celui qui bâille, il a une raison physiologique pourquoi il bâille. Il ne faut pas mal le prendre. En fait, si on pense par exemple à un conférencier qui a un auditoire devant lui, il a trois catégories d'auditeurs. Il y a ceux qui écoutent, il y a ceux qui dorment, et là c'est foutu, c'est trop tard. Puis il y a ceux qui bâillent, et ceux qui bâillent, c'est ceux qui luttent pour continuer à participer, à écouter. Donc il faut leur faire un trait d'humour, quelque chose qui les stimule et qui va relancer la mécanique grâce à leur bâillement.
Vous dites sur votre site que parfois, il y a un lien entre bâillement et érection. Là, je ne vois pas du tout le rapport.
Eh bien, la physiologie dans notre système nerveux, le bâillement dépend essentiellement d'une structure qui s'appelle l'hypothalamus, à la base de notre cerveau. Et quand on manipule par des injections d'un différent neuromédiateur, souvent on stimule et le bâillement et l'érection. Et dans certaines espèces, comme chez le macaque, le bâillement est associé à la puissance du mâle dominant du groupe social et il bâille avant l'accouplement et parfois après l'accouplement. Et quand il perd son statut de dominant, il bâille plus ou très peu et il n'y a plus cette synchronisation entre bâillement et érection.
D'accord, donc chez l'homme, c'est pas valable.
C'est pas valable, c'est-à-dire c'est pas systématique. Il y a Walter St. John's, qui est un psychologue néerlandais, qui a fait une thèse il y a 10 ans sur le bâillement dans la sexualité féminine. C'est associé à un désir d'un rapport sexuel.
D'accord, donc quand on est au restaurant, qu'on essaie de séduire une femme et qu'elle bâille, c'est bon signe.
Exactement.
C'est qu'elle a envie. Est-ce que vous évoquez les macaques, donc ça veut dire que les animaux bâillent aussi ?
Alors, tous les vertébrés bâillent. Mais si on reprend un peu les choses depuis le début, en fait, il y a trois types de bâillements. Il y a le bâillement commun à tous les vertébrés qui dépend des structures les plus archaïques de notre cerveau, ce qu'on appelle le tronc cérébral, le cerveau le plus archaïque et qui est présent dès les reptiles, les serpents qui sont poéquilothermes, qui ne régulent pas la température de leur corps, les tortues, tous ces animaux bâillent, les poissons, les oiseaux, tout le monde bâille, associé au rythme veille-sommeil, et quand on a faim ou quand on a trop mangé, la faim et la satiété. Et puis il y a un bâillement qui est le plus propre des mammifères, qui est associé aux émotions et au stress, qui contrebalance l'effet du stress. Par exemple, quand vous voyez des chiens dans la salle d'attente d'un vétérinaire, ils baillent de façon répétitive. Des animaux dans un zoo, des singes par exemple, qui sont enfermés dans des cages trop petites où ils sont trop nombreux, ils baillent de façon répétitive. Et puis même chez nous, l'espèce humaine, il y a de nombreux sportifs ou des gens du spectacle qui baillent avant une compétition ou d'entrée en scène. Ça, c'est le cerveau paléo-mammalien qu'on appelle en phylogénèse. Et puis vous avez le cortex, le cerveau néo-mammalien. Et là, c'est le propre des grands singes et de l'homme, avec certitude. C'est ce qu'on appelle vulgairement la contagion du bâillement. Et il est clair que les serpents, les reptiles, sont insensibles à la contagion du bâillement.
Donc, si je comprends bien, la contagion du bâillement serait réservée aux êtres vivants, supérieurs et intelligents, un peu comme certaines personnes autour de cette table.
Alors, disons, pour être plus précis, que c'est réservé aux êtres ayant une forte interaction sociale,
ah,
Stéphane.
D'accord, oui.
Mais ce sont souvent les plus intelligents, en effet, qui ont une forte interaction sociale.
Je confirme.
Donc, par exemple, les hommes et les femmes.
Ouais.
Cela dit, moi, je croyais que cette contagion n'était qu'une légende. Elisa Desmouroux, doctoresse en biologie du comportement à l'université de Pise.
Et non, la contagion du bâillement est un phénomène réel. Il ne s'agit donc pas d'une légende. Et à partir des années 80, beaucoup d'études scientifiques ont démontré ça. Donc c'est vrai. Il vous est sûrement arrivé de voir quelqu'un bâiller après que vous l'ayez fait. Donc cette réponse n'est pas consciente, elle est totalement automatique et appartient à la catégorie qu'on appelle la contagion émotionnelle, qui correspond au transfert des émotions entre deux individus.
Mais ça peut se produire pour le bâillement comme pour d'autres émotions, des pleurs, du rire,
oui,
ou comme
ça ? Oui, exactement, le mécanisme, c'est les mêmes. D'où rire, sourire.
Ça veut dire que le bâillement est une émotion ?
C'est pas une émotion. En effet, nous bâillons pour beaucoup de raisons, comme la fatigue, la faim, le stress, le sommeil ou encore la nuit. Donc il n'y a pas vraiment une émotion qui est liée au bâillement.
Alors, la contagion, est-ce qu'elle est identique pour tout le monde ou est-ce que certaines personnes vont être plus sensibles à cette contagion que d'autres personnes ?
Mais on estime que la moitié de la population est sensible à ces phénomènes et la contagion du bâillement est plus fréquente si la personne qui répond au bâillement a un fort lien affectif avec celui qui baille en premier. Et nos résultats démontrent que le lien affectif influence la fréquence et la vitesse de la réponse et que les taux de contagion est supérieur entre parents et diminue graduellement entre amis, puis encore entre simples connaissances et pour devenir mineur entre étrangers, exactement comme d'autres mesures d'empathie.
D'accord, donc ça veut dire que quand vous dites la rapidité, c'est-à-dire que si je baille et que j'ai un parent qui est très proche ou ma femme ou comme ça qui est à côté de moi,
il
elle va,
très
rapidement bailler.
Oui, plus vite.
Vite. Comment est-ce qu'on explique ça, que la proximité affective favorise la contagion du bâillement ?
Parce que la contagion du bâillement se base sur un mécanisme qu'on appelle de couplage perception-action, qui en effet consiste dans l'effet d'effectuer involontairement une expression faciale observée. Et l'empathie entre deux individus va influencer la vitesse et la fréquence de tous les mécanismes qui sont liés au couplage perception-action.
Au même titre que si on a quelqu'un qui parle en face de nous, on va avoir tendance à imiter un petit peu ses gestes.
Oui, exactement, c'est ça. Ce sont des mécanismes de mimique et il y a aussi des mécanismes de mimique faciale qui représentent un pont émotionnel entre deux sujets et à travers lesquels ils peuvent ressentir les mêmes émotions. Et c'est le cas, par exemple, de la contagion du bâillement, mais aussi de la contagion des sourires, rires. Ce sont toutes des phénomènes de mimique faciale.
Comment vous avez pu mesurer cette contagion du bâillement ? C'est quoi ? C'est de l'observation simplement ?
Oui.
Comment ça se passe ?
Oui, nous avons observé 109 personnes pendant un an, durant leur activité quotidienne, par exemple dans les trains, dans un restaurant, durant un dîner, etc. Et nous avons enregistré tous les cas de bâillement. Et pour chaque bâillement, nous avons noté qui pouvait le percevoir. Et nous avons considéré comme contagion les bâillements effectués par ces personnes pendant les 3 minutes qui suivaient le premier bâillement. Et à partir du moment où nous connaissions les types de relations qui liaient les sujets entre eux. Donc, s'ils étaient des parents, des amis, des connaissances ou d'étrangers, nous avons fait les analyses statistiques en mettant en relation la fréquence et la vitesse des contagions avec les liens affectifs.
Et comment vous avez observé le bâillement? Il n'y avait pas toujours une troisième personne qui était là pour regarder,
non,
j'imagine.
Non, c'était nous. Les personnes observées ne savaient pas que nous faisions cette étude.
D'accord.
Donc nous avons observé nos amis, nos parents, même des étrangers dans les trains et tout ça.
D'accord, et puis discrètement vous notiez tout pendant une année et vous êtes arrivé à cette conclusion.
Oui, exactement.
Les données sont donc formelles, hein. Plus on est proche affectivement d'une personne, plus le bâillement sera contagieux.
Et donc ça pose évidemment une question. Partant du constat que certains animaux sont aussi proches affectivement, ça existe, comme l'est l'homme avec d'autres hommes, ben, est-ce qu'eux aussi seraient sensibles à la contagion du bâillement? Elisa Desmouroux.
Jusqu'à présent, la contagion du bâillement a été observée et démontrée chez les chimpanzés, les bonobos, les babouins gelada, les chiens et très récemment chez les loups. Donc, ce sont toutes des espèces qui sont caractérisées par des groupes sociaux complexes et par la création des forts liens affectifs entre les individus. Et comme chez l'homme, les liens sociaux influencent les contagions chez ces espèces aussi. Et donc les phénomènes a des racines évolutives profondes et il a probablement évolué comme un moyen pour synchroniser l'activité des groupes.
D'accord, donc c'est un moyen de communication finalement, est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, on peut dire, vu que la contagion du bâillement met en relation deux individus, elle peut être considérée comme une forme de communication qui n'est bien sûr, bien entendu, pas volontaire. Mais à travers la contagion, deux sujets pourraient, par exemple, synchroniser leur cycle veille-sommeil et leur statut émotionnel.
Donc peut-être un avantage évolutif à la contagion du bâillement chez certaines espèces. On l'a entendu, Bastien, la contagion ne fonctionne pas chez tous les animaux. Par contre, tous les humains, on peut le dire, ils sont sensibles.
Alors, non, loin de là. Elisa Desmouroux, doctoresse en biologie du comportement à l'université de Pise.
On estime que la moitié de la population est sensible à ces phénomènes. Donc, l'autre moitié n'est pas sensible. Mais il y a aussi des pathologies qui affectent la sphère empathique et qui limitent la contagion émotionnelle et donc aussi la contagion du bâillement. Et il y a des études qui ont démontré que les schizoïdes et les personnes autistes ne sont pas sensibles à la contagion du bâillement.
Qu'est-ce qu'on appelle schizoïde?
C'est la schizophrénie. Et donc la schizophrénie et l'autisme sont les pathologies de la sphère empathique les plus connues.
CQFD, notre sujet sur le bâillement aujourd'hui. Et donc la preuve est faite, le bâillement est bien contagieux, en tout cas pour la moitié de la population. Cela dit, ben, ça ne nous dit toujours pas à quoi il sert le bâillement.
Et vous risquez d'être assez déçu parce que la réponse n'est pas vraiment connue encore aujourd'hui. Alors il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été formulées et ça remonte d'ailleurs à bien longtemps. Olivier Walutinski, médecin généraliste spécialiste du bâillement.
Hippocrate, puisqu'on remonte toujours à lui, disait que c'était comme une cheminée par où s'élevaient des vapeurs et des fumées qui sortaient de notre corps. En fait, c'est plutôt un Hollandais qui s'appelait De Gorter qui a raconté au XVIIIe siècle que ça accélérait la circulation du sang. Et de là est né le mythe de l'oxygénation du cerveau qui est fausse. C'est entièrement faux, il n'y a pas d'oxygénation du cerveau quand on baille.
Vous brisez un mythe là.
Ben, c'est une vérité démontrée scientifiquement par la mesure des gaz inhalés, expirés, des gaz du sang. Et quand on fait des enregistrements, j'ai un appareil qui permet de faire des haltères de bâillement et de sommeil, on voit une petite baisse du taux d'oxygène dans le sang tout de suite après le bâillement. Le bâillement, à son maximum, c'est une apnée, un arrêt de la respiration, ce qui n'est pas l'idéal pour améliorer l'oxygénation. Et puis, si on veut réfléchir dans les moments de grand besoin d'oxygénation, comme par exemple la course, on ne voit pas les sportifs bâiller quand ils courent. Ils n'améliorent pas l'oxygénation en bâillant.
Donc, si ce n'est pas pour l'oxygénation, à quoi ça sert ?
Ça, pour l'instant, il n'y a pas un consensus au niveau scientifique qui dit une raison et une seule. Il y a plusieurs arguments qui plaident pour une stimulation de la vigilance. Dans certaines espèces, chez les mammifères et chez l'homme, c'est un signe de communication non verbale. Vous l'avez évoqué, quand on voit quelqu'un bâiller, quelle est la signification? Il est fatigué, qu'est-ce qu'il désire? Est-ce qu'il ne va pas bien? Donc on sait qu'il se passe quelque chose quand on voit l'autre bâiller. Donc il y a un phénomène de communication non verbale, mais ça ne suffit pas à l'expliquer. Puis il est probable que suivant le type de bâillement, les mécanismes et les raisons sont différents. Il faut garder à l'esprit que le moment où nous bâillons le plus, c'est pendant la vie fœtale. Donc pendant la vie fœtale, ce n'est pas pour oxygéner le cerveau, on est dans le liquide amniotique. C'est certainement en raison du fait que c'est un des premiers comportements qui apparaît vers la 12e semaine de grossesse, simultanément à la déglutition, et que ça a un rôle dans la stimulation de la myélinisation et de la maturation du système nerveux, puisque c'est une opération qui commence par le bas de la moelle et qui remonte progressivement vers le cerveau, le cortex étant myélinisé à partir de la 23e semaine de grossesse.
Vous évoquez là la déglutition. Quand on bâille, on déglutit automatiquement juste après?
Oui, les réflexes pharyngés fonctionnent ensemble. Hein. C'est la même chose au moment de la toux, au moment du hoquet. Il y a toujours une synchronisation de tous ces mécanismes au niveau du carrefour entre la déglutition et la respiration.
Et là, j'imagine tous les auditeurs en train d'essayer de bâiller et de voir s'ils déglutissent après.
Ils bâillent certainement parce que le fait d'en parler ou de lire quelque chose sur le bâillement favorise les bâillements.
Est-ce que le bâillement est nécessaire à la survie des espèces ou est-ce qu'on pourrait s'en passer totalement?
C'est un phénomène physiologique universel. Donc si la nature l'a maintenu au cours de l'évolution, c'est qu'il a un rôle probablement important. Darwin avait dit que c'était un morceau de physiologie inutile. J'ai du mal à le croire. Personnellement, je pense que c'est très important.
Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ce soit simplement un moyen de se détendre? Parce qu'en général, une fois qu'on a bâillé, on se sent plutôt bien.
Oui, non, mais ça fait fonctionner le système de récompense dans notre cerveau. C'est ce qu'on appelle l'insula. On améliore la perception qu'on a de notre corps et d'être nous-mêmes. Hein. Mais c'est plus une conséquence qu'une cause. C'est après ce puissant mouvement musculaire. D'ailleurs, même sans bâiller, on peut s'étirer pour se faire du bien. C'est exactement pareil. Mais ça n'explique pas le pourquoi, puisque le bâillement est un phénomène, un comportement qui est tout à fait involontaire. On ne choisit pas de bâiller spontanément. Ça s'impose à nous.
On ne peut pas contrôler le bâillement?
Une fois qu'il est déclenché, on peut, par la volonté, en minimiser l'extériorisation pour moins ouvrir la bouche, contracter nos mâchoires pour l'empêcher de s'ouvrir, essayer de l'estomper. Mais on ne peut pas l'empêcher. Si ça vient, ça vient.
Et par contre, on peut le déclencher chez quelqu'un?
On peut le
avec des produits chimiques ou je ne sais pas, des hormones ou...
Oui, enfin ça, il faut après faire des manipulations dans le système nerveux. Il y a le fait que déjà des médicaments en augmentent la fréquence, mais il y a aussi le fait qu'en faisant des mouvements de ventilation amples et puissants de façon répétée, il y a des gens qui arrivent à déclencher leur bâillement. Et c'est utilisé souvent avec des méthodes de relaxation pendant les séances de yoga. Les professeurs de yoga aiment bien faire bâiller leurs élèves pour qu'ils se sentent mieux, parce que ça intervient avec l'ocytocine, qui est un des neuromédiateurs de la détente et du bien-être.
Est-ce qu'il existe des pathologies liées au bâillement? Des gens qui bailleraient tout le temps, par exemple?
Écoutez, on peut, d'une réponse un peu plus ample, c'est un comportement extraordinaire puisque il y a la physiologie du bâillement, mais tout en étant physiologique, il peut déclencher des maladies et tout en étant physiologique, il peut guérir des maladies. Donc il n'y a pas d'autres comportements qui sont comme ça et ce comportement lui-même peut être pathologique. Donc il peut être normal, pathologique, déclencher des maladies ou guérir des maladies.
Quelle maladie il peut déclencher ou guérir?
C'est la cause la plus fréquente de la luxation de la mâchoire.
Ah, ça, c'est pas une légende, pour le coup.
Non, ça peut casser la styloïde, le petit os qu'on a à la base, en arrière de la mandibule, où sont insérés les muscles qui nous permettent d'ouvrir la bouche. Et il y a un ligament qui peut s'ossifier et casser quand on bâille très fort. Ça guérit, ça améliore l'audition, la pression de l'oreille quand on descend en avion ou dans les montagnes, quand on descend à l'école en Suisse, on a les oreilles qui se bouchent, il suffit de bâiller pour réentendre parce qu'au moment où on bâille, on ouvre la trompe d'Eustache, le petit canal entre l'oreille et le pharynx et ça rééquilibre les pressions de part et d'autre du tympan. Puis, il y a des pathologies du bâillement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cause la plus fréquente à l'heure qu'il est d'excès de bâillement, c'est la prise des médicaments antidépresseurs sérotoninergiques, fluoxétine, paroxétine, enfin, toute cette famille-là. C'est une des causes les plus fréquentes de questions sur mon site. C'est des personnes qui bâillent 50, 100, 200 fois par jour, par salve de façon répétée, et très fréquemment, ils prennent ces médicaments. Et en arrêtant, en quelques jours, cette gêne disparaît. Donc ça fait penser que la sérotonine a certainement un rôle parmi les neuromédiateurs qui font fonctionner le bâillement.
Et est-ce que vous avez aussi des gens qui viennent vous trouver en vous disant « c'est bizarre, je ne bâille jamais ».
Non, jamais personne ne se plaint de ne pas bâiller, ça ne peut pas être très gênant. C'est très peu fréquent. Les personnes qui arrêtent de bâiller sont les personnes qui boivent énormément de café, qui prennent des médicaments opiacés de façon légale ou illégale. Et dans les deux cas, quand ils arrêtent, il y a un rebond de bâillement, il y a un sevrage. Et les bâillements répétés font partie du sevrage, aussi bien du café que des morphinomimétiques. Et puis, il y a certaines formes de maladies de Parkinson où on ne bâille plus. Et quand on injecte de l'apomorphine, qui est un stimulant qui va redonner de la motricité aux parkinsoniens, une des premières choses qui apparaît comme effet du médicament, c'est un bâillement qui avertit le parkinsonien qu'il va pouvoir à nouveau bouger. La cause aussi fréquente, c'est les personnes qui se plaignent d'avoir un bâillement qui n'est pas complet, de ne pas arriver jusqu'au moment où ça fait plaisir, où ça fait du bien. Et là, c'est généralement un symptôme de stress et de besoin de repos et de relaxation pour faire de la relaxation, pour retrouver un équilibre, et les bâillements harmonieux réapparaissent.
Et j'ai également l'impression qu'on a tendance à pleurer à partir du moment où on se met à bâiller. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ?
Oui, mais d'une façon très simple, c'est que quand on bâille, on contracte tous les muscles de notre visage et on ferme le canal lacrymal, le petit canal qu'on a à l'angle interne de l'œil, et les larmes n'arrivant plus à s'éliminer vers le nez débordent par-dessus la paupière.
Olivier Walunzinski, donc médecin, généraliste, spécialiste du bâillement, voilà, vous savez tout ou presque sur le bâillement. Personnellement, je retiendrais en particulier que le bâillement peut être relié au désir sexuel. Ça m'a
c'est marrant, ça
idée.
M'étonne pas du tout de vous, ça, Stéphane. Bon, tiens, puisqu'il n'y a que ça qui vous intéresse, je vous donne encore un petit sucre pour clôturer ce dossier. Différentes études faites, entre autres, par des psychiatres canadiens dans les années 80 ont montré que les patients qui prenaient du Prozac ou de la clomipramine, ce sont deux antidépresseurs, se mettaient à bâiller et simultanément, ça leur déclenchait un orgasme avec éjaculation chez les hommes. Voilà, Stéphane. Maintenant, vous savez vraiment tout et vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Je dois arrêter les antidépresseurs. Hein.
Voilà,
c'est ça. Ouais, exactement. Le bâillement, alors c'est marrant parce qu'on parlait de cette contagion. Je vous renvoie à notre page internet rts.ch/CQFD parce qu'on a mis un extrait de nos collègues de Spécimen qui avaient traité du sujet. Et c'est génial quoi, de voir les gens dans la rue. Vous arrivez vers quelqu'un, vous commencez à bâiller et lui, il va s'y mettre très souvent. C'est fréquent, on l'a dit, hein, la moitié d'entre nous a cette contagion en soi, enfin, est contagieux.
Et même rien que le fait d'en parler.
Et le fait d'en parler, et on est rendu compte avec Stéphane Détroguet. Là, ça va, Stéphane? Ça fait 20 minutes, vous n'arrêtez pas de bâiller.
Oui, oui, je crois que c'est l'émission où je serai le plus calme, qui m'a fait le plus de bien voilà. Depuis très longtemps.
Là, vous êtes détendu.
C'est magnifique.
C'est magique. Voilà,
je vous ai fait du bien.
Voilà, exactement. Merci beaucoup, Bastien Confinon. On prend des nouvelles de la route.
Infotrafic, RTS.
Sur l'axe Genève-Lausanne, de forts ralentissements sont toujours constatés entre Morges-Est et l'échangeur